Monsieur Truchon, bonsoir.
Bonsoir.
Pour faire suite à la semaine prochaine, je pense que nous allons poursuivre aujourd'hui, la semaine dernière, je dis bien, nous allons poursuivre notre définition, notre portrait robot de l'artisan de paix. Je pense que vous en avez assez long à nous dire.
Oui, il y a du stock là-dedans, parce que là-dedans, c'est toute la structure de la dynamique même de la béatitude. Alors, nous disions que c'est un homme du peuple, c'est-à-dire qui a communié aux problèmes de son temps, qui les a bien identifiés, et que c'est pas ceux du Moyen Âge, et que c'est comme ça que Dieu peut se montrer vivant en faisant un saint pour aujourd'hui, et non ni pour l'avenir, et non pour le passé. Quoique certaines choses fondamentales, évidemment, demeurent, puisque c'est toujours la même histoire du salut et la même histoire de l'humanité qui se continue. Mais avec des accents très, très, très différents. C'est certain que dans notre siècle, nous vivons des choses particulières, comme par exemple la mondialisation, comme par exemple trouver des solutions et des moyens qui sont internationaux et où chacun ou chaque pays maintenant n'est plus un concurrent mais peut être quelqu'un avec qui on travaille et que chacun a ses qualités propres et a ses produits à produire ou si vous voulez ses choses à faire et sa vocation comme on disait en termes de théologie. Alors, on disait que c'est un homme aussi qui a réglé en lui relativement ses problèmes personnels. C'est que, justement, par exemple, aujourd'hui, le suicide est élevé, des problèmes de drogue, des problèmes de fuite de soi, des problèmes de chômage. Tout ça, là, ça prend une valeur capitale dans notre siècle. Il faut régler ces problèmes-là. Il faut pas dire, bon, ben, faut vivre avec, faut se résigner, faut prier, il faut accepter. Un instant, il faut réaliser l'homme, parce que c'est lui le projet fondamental. Toutes les inventions qu'on découvre en bioéthique, tout ça, il faut maîtriser ça. C'est pas parce qu'on a découvert une machine à vapeur qu'on va aller s'assommer avec.
Ce que vous dites, c'est que tous ces petits problèmes-là, il faut d'abord les avoir réglés pour soi-même avant de pouvoir chercher à les régler pour d'autres.
Au moins avoir un peu de lumière pour voir clair, puis savoir un peu la direction à prendre. Alors, je disais globalement la semaine passée que c'est un gars qui a réglé son passé par la miséricorde divine, mais ça, c'est vite dit, là, c'est un processus, on n'a jamais fini de faire ça. Qui a réglé son futur par l'espérance, oui, parce qu'il ne vit plus d'angoisse métaphysique insurmontable, parce que à cause de sa foi, il peut vivre son présent. Donc, débarrassé de son passé, débarrassé de son futur, mais un instant, présent dans son présent pour construire son futur, à même le passé. Alors, tout ça, c'est tout le temps lié. Mais disons que lui a trouvé pour une première fois une certaine joie à vivre en son temps. Et il a trouvé aussi dans son temps des qualités. Il n'y a pas rien que des problèmes dans chaque siècle. Il y a des qualités. Au Moyen-Âge, on a construit des cathédrales. Au Moyen-Âge, on a fait bien des choses. Il y avait des grandes pauvretés, il y avait des seigneurs. C'est vrai. Aujourd'hui, on vit encore des grandes pauvretés, puis il y a des riches aussi qui s'enrichissent. C'est vrai. Mais, donc, il y a des problèmes qui sont similaires. Mais la façon de régler va être différente. Ça va être différent du Moyen Âge. Ce sera plus par la guerre, ça va être par des artisans de paix. Ça ne sera plus par des confrontations où des multinationales essayent d'en couler un autre. Tout ça, ça achève ces choses-là. Et quand on assèche un pays en ayant trop exploité, ben oui, pris après pour le reconstruire, parce qu'il est sur la petite planète bleue. Alors on est devenus tous interdépendants, tous solidaires. C'est pour ça que les syndicats sont venus au monde, la solidarité en Pologne, tout ça, ça a aidé à voir plus clair dans des relations internationales. Le pape a joué un rôle important là-dedans, l'Église aussi, en étant autant de l'Est que de l'Ouest, c'est le reste. Mais tout ça, l'artisan de paix, il faut qu'il vive un peu en lui-même. Parce que l'homme, au fond, est un résumé de l'univers. L'homme, au fond, c'est le résumé des nations. Alors, il faut qu'en lui-même, il commence à mettre de la lumière. Et ça, c'est toute la démarche de l'intériorité. Alors, passons à la troisième qualité du portrait robot, nous allons nous faire approfondir cette affaire-là. C'est un homme d'une grande tradition. C'est quoi cette affaire-là? C'est un homme qui a découvert dans le passé des choses dépassées, puis dans les choses passées, des choses pas dépassées. Bon, mettons ça clair. C'est pas compliqué, ça a l'air compliqué, il l'est pas du tout. Abraham marchait avec un chameau, il fonctionnait avec un chameau, puis à pied aussi. Bon, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'auto. Même le cheval, je pense, je ne sais pas. Oui, le cheval, vraiment, il existait. En tout cas. Alors aujourd'hui, Abraham, sur quatre bourgeois, un chameau, ça ne marche plus du tout. S'il y a une planche aujourd'hui à la main, là, avec un éguine, là, on n'en sortirait plus. Une maison coûterait 1 million. Alors, qu'est-ce qui est dépassé? Il y a des choses dépassées. Aujourd'hui, on ne marche plus en avion. Mais qu'est-ce qui n'est pas dépassé? C'est qu'on passe notre temps à partir encore plus qu'Abraham. Pourquoi? Parce qu'on arrive d'autant plus vite. À un moment donné, on se demande même si on ne sera pas arrivé avant de partir. Alors, donc, on change de moyen de locomotion, ça va de plus en plus vite, mais on continue à partir. Donc, le message d'Abraham, il reste. Donc, la grande tradition demeure, elle est encore vivante. Faut avoir encore la foi dans nos déplacements. Faut avoir la foi dans certains détachements pour avoir des choses meilleures dans des autres attachements. Et en fait, si on veut définir l'attachement, c'est de s'attacher à ce qui ne passe pas. Autrement dit, ce qui dure. Alors, ça, c'est l'homme de paix, dans sa troisième qualité, a découvert, dans le passé, dans son histoire, dans l'histoire de ses parents, dans l'histoire de son peuple, des choses qui se continuent.
Des valeurs permanentes.
Des valeurs permanentes qui se continuent, même si la façon de les aborder ou de les vivre est différente. Donc, c'est un homme qui est réconcilié avec son passé, pas rien que pour dire c'était bon, mais pour en tirer des richesses pour le présent. Ce qu'au fond, avaient vécu tous les fondateurs de communautés. Parce que les fondateurs, c'est quoi un fondateur de communauté? Les jésuites, n'importe quel, là. C'est quoi ces communautés-là? Là? C'est quoi un fondateur? C'est quelqu'un qui a trouvé un problème de son temps important, puis qui a trouvé une solution de le régler. Pourquoi? Parce que la foi dans le Christ, puis dans les outils que le Christ peut y fournir pour régler ses problèmes. Et le fondateur est toujours un fondateur pour son temps. Le problème des disciples puis des successeurs, c'est de jamais perdre cet esprit du fondateur qui, à chaque moment de l'histoire, est capable de nous faire redécouvrir le moyen fondamental que lui avait trouvé pour régler les problèmes de son temps, qui, au fond, se continue aujourd'hui d'une autre manière. Alors donc, la troisième grande qualité de l'artisan de paix, c'est un homme non seulement qui a pas coupé avec le passé, qui a redécouvert les richesses du passé dans son présent en les appliquant d'une autre manière qui fait qu'on ne le voit pas comme une pièce de musée, mais qu'un homme bien vivant, bien inventeur, adapte. Et ainsi, Dieu, vu que cet artisan de paix s'en reporte à Dieu pour tout et qu'il met sa foi en lui, ben il nous montre un Dieu qui est actif et non pas un Dieu qu'on adore, qui est assis puis qu'on s'en va là au ciel en regardant toujours le même film. C'est un Dieu qui est acteur, constructeur, libérateur, qui vient régler nos problèmes, mais pour ça, nous demande de les voir en nous, nos problèmes, et de commencer à y travailler pour nous-mêmes. Ensuite, ça aidera pour les autres.
Chers amis, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Encore cette semaine, M. Truchon et moi abordons la grande question de la septième béatitude, celle des artisans de paix. Et M. Truchon tente très fort de nous définir l'artisan de paix. Je crois que nous en sommes à la quatrième qualité de l'artisan de paix.
Oui, la première était l'homme du peuple, c'est un homme qui il communie aux problèmes du peuple. La deuxième, c'était qu'il trouve en lui ces problèmes-là, puis qu'il essaye d'y travailler relativement, là, puis qu'il réussit jusqu'à un certain point. La troisième, c'est un homme d'une grande tradition, c'est qu'il s'inspire de toute l'histoire de l'humanité, il étudie l'histoire, il étudie les communautés religieuses, il étudie les sciences, il étudie les problèmes des scientifiques. C'est un homme de son temps, surtout aujourd'hui, là, j'en parle comme d'un homme de son temps. Et quatrième grande qualité, c'est un homme qui est bon. L'artisan de paix, c'est bon comme du pain, ça. Il sait même pas qu'il est bon. Alors, c'est un doux. C'est-à-dire que, ayant désamorcé en lui, je dirais, il est bon, là.
C'est ça, j'allais vous demander. Est-ce que vous pouvez nous le définir par la négative? Qu'est-ce que c'est un homme qui n'est pas bon?
Coléreux, coléré. Il est toujours, la soupe est toujours en train de border. Il manque toujours la goutte. Il pleut, c'est une catastrophe. Il vient d'échapper un plat à terre. Tout est une catastrophe parce qu'il est toujours sur le bord d'une dépression. Il se demande tout le temps s'il va pas sauter.
Alors, il est très stressé aussi, alors.
Stressé? Je comprends, tu changes une chaise de place, c'est la grosse guerre, c'est le gros scandale. Un maringouin fait de l'arthrite, il perd la carte, il est toujours de passer. Alors, c'est un homme qui se demande tout le temps s'il va pas mourir dans la seconde qui s'en vient. Il est persécuté par les autres, il est toujours exploité, il est pacté de problèmes.
Il faut donc se défaire de son stress avant de pouvoir être bon.
Tu sais jamais, c'est comme les anciennes sœurs qui étaient costumées, tu sais jamais par où les prendre. Ils sont tellement dans le costume que où est-ce qu'elle est la femme là-dedans? Tu sais plus par où les prendre, tu sais plus.
D'accord. Donc, la bonté. Monsieur Truchon?
Oui, la bonté. Alors, cette bonté-là, c'est quoi? C'est une douceur incomparable. C'est qu'il sort pas de ses gonds. Quand tu te fâches, il reste calme. C'est quasiment le portrait d'une personne irréalisable. Et pourtant, ça existe, des personnes comme ça. Et il y a certains de nos parents qui l'étaient. Moi, j'ai une sœur qui vient de mourir, là. C'était bon, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens, cette personne-là, comment c'était bon. C'est ma sœur, c'est une question de bien réel. Elle n'a pas été canonisée, elle est morte, là, puis elle est morte en 84. Il y a un autre aussi qui n'est pas mort encore, qui est proche, là, parce que moi, je suis le dernier, puis j'ai 64, et les autres, hein, 70 en montant. Il y a un autre, là, qui est proche. Il est bon aussi, il ressemble à ma sœur. Alors, ça existe des gens bons. Pas des gens bons, là, mais des gens qui sont bons, là. Ça existe, ça. Mais quand un homme là a désamorcé en lui les gros problèmes de sa vie personnelle là, puis qui est comme assuré de son avenir là, ben il est plus on est heureux, moins les choses nous rendent malheureuses, moins tu fais de drame. Plus t'as désamorcé tes insécurités et tes angoisses profondes, plus t'es assuré de certaines choses fondamentales, comme par exemple dans ton couple ou avec un ami, plus t'as un ami solide là que tu sais que tu seras jamais capable de détruire par tes bêtises. Hey, c'est une moyenne richesse, ça. Alors, quand, à un moment donné, t'es mal pris, tu viens t'accrocher à ça, puis là, tu restes bien. Mais quand c'est en toi que ça se trouve, ça, là, ben, il n'y a plus rien qui t'énerve. Les grosses colères, il n'existe plus. Tu te pars à rire, parce qu'il n'y a rien de plus drôle que quelqu'un de fâché, finalement, si toi, tu vas bien, là, tu sais. Alors, les grosses catastrophes, c'est comme ceux qui commentent la Bible, là. Moi, je travaille dans la Bible beaucoup, là, puis qui s'imaginent peut-être que leur livre va être célèbre. Quand ils vont mourir, c'est la Bible qui va rester. Il ne faut pas s'énerver. Alors, tu sais, des fois, là, on survalorise, puis finalement, on se dévalorise. Alors, tout ça, c'est l'homme qui est en problème. Alors, chez l'artisan de paix, il a trouvé son centre de gravité. La plus belle parole qui ferait saisir ça, c'est celle de Saint-Augustin. Seigneur, je cherchais la beauté partout, puis on sait lesquels qui cherchaient, là. Saint-Augustin, on est au courant. Alors, il trouvait toujours les mêmes, là. Alors, il cherchait la beauté partout, puis c'est à l'intérieur de moi, je l'ai trouvé. Oui, mais c'est à l'intérieur de lui. Comment ça? Ben, c'est le Seigneur, c'est toute la direction pour prendre le Seigneur qui répond à nos aspirations profondes, qui donne la vraie paix. Alors, c'est cette paix-là qui, au fond, est un bonheur extraordinaire et que plusieurs vivent bien plus qu'on le pense et qui, finalement, sont bons puis on se demande pas trop pourquoi, on comprend pas ça, ils cherchent toujours à nous aider. Moi, cette sœur-là était partie de Limoilou avec un pot de limonade en autobus pour venir me porter ça dans ma chambre quand je faisais la médecine. Elle était venue me porter ça en autobus. Oh, c'était terrible faire ça, ça n'a pas de bon sens, c'est quasiment pas avoir de génie. Mais j'oublierai jamais ce baptême de pot de jus-là, de l'avoir se promener dans l'autobus dans le trafic avec ça. Il faut quasiment être fou. Ben, c'est de l'amour, ça.
Monsieur Truchon, si je comprends bien, l'artisan de paix, c'est également une personne, l'artisane de paix, c'est une personne qui est équilibrée.
Absolument. Parce que, puis c'est ça, c'est que cette paix-là que le Christ nous donne, puis que l'amour nous donne, puis que la foi nous donne, c'est que ça va chercher au fond de toi ce qui est le plus fort, la paix. Parce que la paix, là, au fond, là, si on pourrait le définir de belles affaires, là, belles façons, c'est un grand mystère, mais c'est une certitude d'avoir une valeur inouïe pour quelqu'un. Ça, ça te sécurise un homme assez raide.
Monsieur Truchon, est-ce qu'on peut parler de la cinquième qualité de l'artisan de paix?
La cinquième qualité, c'est un médiateur. C'est qu'il ne cherchera pas à opposer les gens pour en profiter, comme on dit qu'il chicane, va ramasser la poule pour laquelle il se battait. Là. Alors, c'est un médiateur, c'est-à-dire qu'il cherche à valoriser chacun, à construire chacun, à trouver dans chacun sa grande richesse, son étoile. Comme là, j'apprenais, par exemple, qu'à Rimouski, là, il y a une école, là, il y avait 80% de décrochage, puis là, il y a 80% de réussite. Ils ont expliqué rapidement de quoi ça dépendait. C'est que les professeurs, là, ils sont mis à prendre les élèves individuellement. Ben ça, c'est biblique. On ne prend pas une collectivité collectivement. Ce n'est pas un poulailler, ça. Alors, tu prends quelqu'un one by one, un par un, tu trouves sa qualité, sa force. Alors, chaque professeur à cette école de Rimouski-là cherche la force d'un étudiant. Puis, regardez le génie de ces professeurs-là. Ils ne font pas passer les examens à une même date. Quand le gars n'est pas prêt, ils attendent l'examen. Fait que tout le monde passe. C'est-tu un brillant monde, ça?
Alors, l'artisan de paix, il traite avec chacun dans son individualité propre.
Voilà. C'est comme ça que la collectivité devient forte. Parce qu'une collectivité, c'est comme une chaîne. Si une maille est faible, ça casse là. Alors, dans une collectivité ou dans une communauté, aujourd'hui, on parle de communauté, on prend tous les termes religieux puis on les adopte au civil. Je ne suis pas contre pantoute qu'on devienne un gros couvent. Alors, ce qui arrive, c'est que si chacun devient fort, le peuple est fort. Mais il faut que tu t'occupes de chacun. Alors, la justice, le droit personnel, c'est la force du droit collectif.
D'accord. Est-ce qu'on poursuit avec la sixième qualité?
Oui, la sixième, c'est un miséricordieux. C'est que lui-même sait tellement qu'il a fallu qu'il soit aimé alors qu'il ne méritait pas. Il sait tellement qu'il l'a été qu'il sait c'est ce dont chacun a besoin le plus. Alors, retrouver en chacun le négatif, l'accepter, que la personne l'avoue et en faire un positif. Ça s'appelle le médiateur miséricordieux. C'est le miséricordieux. C'est exactement ce que le Christ a vécu d'abord. Puis il nous dit, ben vivez dans ça, vous allez voir ce que ça va donner.
Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous traitons encore une fois cette semaine de la septième béatitude avec M. Raymond Truchon, la béatitude des artisans de paix. Et nous voyons en détail, je dirais bien en détail, le portrait robot de l'artisan de paix. Je crois que nous en sommes à la septième qualité de l'artisan de paix, M. Truchon.
Oui, ça, la septième qualité, c'est peut-être la plus, la plus puissante au niveau opérationnel dans un travail de paix, c'est que l'artisan de paix soit lui-même, qu'il ne soit pas faux. Autrement dit, qu'il soit authentique, qu'il soit capable d'accepter ses limites, de les dire, ses erreurs, de les partager avec l'autre, pour qu'on soit vraiment ensemble. Et c'est ça le cœur pur. Alors le cœur pur, c'est celui qui fait l'opération vérité sur lui-même d'abord. Alors il découvre ses forces. Il cache pas ses forces. Il découvre ses forces. Il dit, moi, je suis bon là-dedans, j'aime ça. Ça va bien. Puis il cache pas ça, c'est pas de la fausse humilité. Mais d'un autre côté, quand il arrive une faiblesse, il la cache pas non plus. Bon, il dit ça, j'ai de la misère. Bon, j'ai de la misère. Mais il n'y a rien qui nous unit tant que nos misères. C'est terrible. Alors, le cœur.
Elle nous divise aussi, M. Truchon.
Si on les avoue pas. Si on les avoue, on se met ensemble pour les combattre. Puis les... Prenez, par exemple, 4 personnes qui se parlent jamais, qui attendent toute la soupe d'un restaurant. Mané, ça prend tellement de temps qu'il y en a un qui est tanné. Il dit aux autres, ça prend du temps, soupe, hein? Ben, il commence à se parler. Mais s'il mange toute la soupe, personne ne va se parler nécessairement. Faut qu'ils se connaissent d'abord. Alors, pour se parler, il faut quasiment avoir de la misère, des fois. Et c'est ça qui sauve notre amour, c'est d'accepter de dire à l'autre comment est-ce qu'on se sent, puis qu'on a des problèmes, puis qu'on a de la misère. Au contraire, on cache ça, puis on se montre chromé, la relation est coupée. Fini.
Pourquoi est-ce qu'on se rappelle si facilement nos misères beaucoup mieux que nos petits bonheurs? Est-ce que vous pensez pas que c'est le cas?
Ça dépend des personnes. Il y en a qui vont cultiver le plaid, puis qui vont mettre de l'odeur dessus pour que tout le monde les voie, là. Mais au fond, c'est une question d'étape, ça. On peut être attaché aussi à nos vices, puis à nos maux, puis peut-être des fois on veut pas en sortir. Mais moi, là, j'en suis surtout sur le fait de les cacher. C'est cacher nos misères, ça, c'est destructeur.
Il faut également développer la vertu de l'humilité là-dedans.
Comme moi, ma mère, par exemple, là, ma mère à moi, là, qui est morte, là. Si elle m'avait, je fais pas de reproches, mais mon Dieu, qu'on aurait pu se parler plus que ça. On passait des grands déjeuners à se regarder les oreilles. Ça avait pas de bon sens. On aurait pu se parler. Mais si elle m'avait dit des fois, remonte là, j'ai de la misère avec telle affaire. Et mon Dieu, que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, tu sais pas comment.
Mais tout le monde a pas ça, la qualité du dialogue, la
qualité
de la
communication. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut développer. Toute cette histoire d'artisan de paix, toute cette histoire de l'Évangile, c'est de dire vraiment à l'autre ce qu'on ressent. Quand le gars dans l'Évangile, là, qui s'appelle Nathan, c'est pas Nathan, c'est le gars qui était sous le figuier, là.
Je pense que vous le connaissez mieux que moi.
Ouais, en tout cas, il a dit à Jésus, qu'est-ce qui peut bien sortir de Nazareth puis de Galilée? Autrement dit, ces prophètes-là, on n'en a pas besoin. Jésus, là, hein, c'est ce qu'il a fait. Il a pas dit, forme-toi, toi, mon étoile, m'a te ramassé. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit, voilà un vrai Israélite. Hein? Voilà un vrai Israélite. C'est un drôle Israélite, ça. C'est que la première qualité d'Israël, ça doit être de dire la vérité. D'être capable de dire ses problèmes. Alors, d'être capable de les dire aux autres aussi, puis de ne pas avoir peur. Évidemment, c'est dangereux, ça dépend de l'autre. Il peut sortir la hache.
On se rend très vulnérable en faisant ça.
On se rend vulnérable, mais c'est la condition de l'amour.
Ça prend beaucoup d'humilité.
Ça prend de l'amour. C'est le chemin de l'amour que de dire, d'avouer ses problèmes et ses difficultés. Puis, faut-il être assez naïf pour penser qu'on n'en a pas? Ben, c'est justement, c'est l'orgueilleux. Il y a une cataracte dans l'œil de son esprit. C'est qu'il sauve son image. C'est le pharisaïsme. Il sauve sa réputation. Il se met en gros Cadillac blanc. Puis, il montre aux autres que lui, il a tout dominé. Alors qu'il a peut-être même pas commencé à régler les problèmes fondamentaux. C'est-à-dire d'avoir un rapport avec soi-même.
Monsieur Truchon, je vois que nous sommes rendus au tout dernier point de l'artisan de paix, de sa définition de portrait robot.
Oui, du non-violent, parce que vous voyez bien que tout ça va déboucher sur...
Ah, voilà, le non-violent.
C'est là qu'il arrive. C'est que tout ça, c'est le fruit fondamental. C'est ça qui va nous permettre d'accéder, d'ailleurs, avec bon sens, à la prochaine béatitude des persécutés, parce qu'on n'est quand même pas des masos, ni des sados, pour arriver et dire « envoie l'autre joue, claque, envoie l'autre, envoie le casse la colonne, envoie fort ». Ça, il y a toujours bien un bout à être un terrain de golf pour un gars, qu'on soit femme ou homme, là, ça n'a pas de bon sens, ça. Alors, c'est une béatitude, c'est pas une cochonnerie, mais tout ça va être possible. Parce que les deux dernières béatitudes, au fond, sont deux conséquences des 6 autres. Et même si on a une relation interrelationnelle, s'ils ont une fonction interrelationnelle, il reste qu'elles sont comme plus, un peu comme des conséquences. Alors, le gars qui est pur, c'est un gars qui est heureux d'être lui-même. C'est un gars qui est aimé de Dieu. C'est un gars qui le sait, qui est aimé. Quand tu lui dis qu'il est lettre, là, ça y fait rien, il sait qu'en dedans, il est beau. Il va t'écouter pareil pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à améliorer, là. Mais il passe pas son temps à se farder, à se cacher, à être un autre devant toi. Il est content d'être lui, il s'accepte et il est pur. Et à ce moment-là, il est non-violent avec lui-même. Il est accueillant avec lui-même. Il travaille sur lui-même avec joie. Il travaille à régler ses problèmes. Il est pas découragé dans ses problèmes. Il accède à des solutions. Il progresse dans son développement. Alors ça, c'est un gars qui est en voyage à noces avec lui puis avec Dieu. Ben, il est non-violent. Alors lui, là, quand il est dans un climat de violence, là, ben, il est pas bien. Il se dit, mon Dieu, c'est quoi qui va arriver? On va se tirer des assiettes, là, c'est quoi ça? Pour lui, il est plus capable de vivre ça, là. Il aime pas ça. Il est mal là-dedans, comme un poisson qui serait sur l'asphalte, là. Il frétille, il est mal. Alors, il essaie à dire à l'autre, ben voyons, veux-tu reprendre une marche? Bon, regarde le petit oiseau. Il va essayer de retrouver en lui un climat qui est beaucoup plus profond que la violence. Parce que dans le mot violence, il y a le mot viol. Savez-vous qu'on est violé? On est violent parce qu'on est violé. Et la colère d'un violent, c'est quelque chose de bon au départ, ça. C'est qu'il se laisse pas écraser. C'est quelque chose de bon, c'est une vertu. C'est ce que disait Aristote d'abord. Mais faut pas rester là, tu vas travailler hors Saint-Ville. Alors, faut pas rester dans la violence. Mais un gars qui se fâche, là, c'est une bonne affaire, ça. Mais faut pas qu'il reste fâché longtemps. Alors, il dit, t'es fâché, là, bon, je comprends pourquoi t'es fâché, bon. Mais il ira pas nourrir la colère en disant, t'as raison, l'autre, ton innocent, viens, on va aller le descendre. Il dira pas ça. Il peut pas vivre là-dedans. Il sait que c'est pas une solution, ça. Pour les pays non plus, d'ailleurs. Alors, il va dire, bon, ben, c'est quoi qui est arrivé? C'est quoi tu penses que t'es, qui va pas? En quoi t'as été violé? En quoi tu t'es peut-être violé toi-même? C'est quoi? Et il va essayer de créer un climat d'entente, un climat de dialogue, un climat de négociation. Et finalement, tout ça en disant, ben, moi aussi j'ai ça, j'ai vécu ça, c'est vrai, je te comprends. Puis il va le dire d'une façon que l'autre va dire, il va dire, c'est vrai qu'il a vécu ça. Et que dans la colère, il n'y a pas d'avenir. Et dans la violence non plus. Et alors, il va créer un climat de rayonnement où on recherche ses valeurs qui, elles, sont constructrices. Parce que le fond de l'homme, la violence, c'est l'amour à l'envers.
Mm-hmm.
Alors, c'est l'amour frustré. C'est la peur de ne pas se réussir. Alors, si on a quelqu'un qui nous dit, ben voyons, on est capable d'en sortir, on va essayer, on va travailler, tout de suite, c'est la confiance qui recommence. Et quand la confiance arrive, le viol perd son aspect là, irritant, on n'est plus assis sur des poignées de braquettes, on recommence à retrouver des... Puis là, ben, il aime à manger une pomme, il aime à réaimer des affaires. Alors, là, il commence à se faire bonne voie. Parce que faut se réconcilier avec la création, notre corps, l'autre, même nos ennemis. Mais on n'est pas rendu là, on creusera ça terriblement.
Monsieur Truchon, il nous reste deux petites minutes. Je vais vous demander, comme je l'ai fait pour d'autres béatitudes, je vais vous demander de nous donner des exemples d'artisans et d'artisanes de paix. Ouais. Des gens qui sont près de nous, des contemporains. Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit?
Ben, on est d'abord les gros géants, là. Moi, j'ai pas. On pense à Mère Teresa. Là, on a un gars dans Saint-Roch là, qui est identifié à Mère Teresa, là, d'un autre sexe, là, c'est bien, ça fait voir des différences, qui vient de se faire couper son bien-être de 100 pièces. Là. J'espère qu'il va se régler ça autrement, cette histoire-là. Là. Il rencontre 600 personnes par jour, ce gars-là, puis il doit même acheter des soupes de sa poche, puis il coupe le bien-être. Ben, ça, c'est le scandale de l'institution. Là. L'institution, c'est excellent, on a besoin du pouvoir. On a besoin, sans ça, on vivrait dans des trous d'eau. Mais un instant, là, il faut que ça serve à la bonne place. Là. Alors, il faut critiquer ça, il faut se réveiller là-dedans. Alors, moi, je félicite Second Regard d'avoir sorti cette affaire-là. Puis, je félicite les nouvelles. Parce que, de même que les poètes sont les premiers prêtres d'une société, de même, nos journalistes aujourd'hui sont nos premiers artisans de paix. C'est eux autres qui vont voir les cochonneries qui se font, puis qui essayent de nous faire voir les causes de ces affaires-là. Alors, bénis soient les journalistes qui sont actuellement notre sauvegarde pour une pourriture qui n'aurait pas de sens. Et quand on commence à museler la presse, ça commence à être grave.